Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. Nous avions un peu de légèreté avec Julien Courbet, mais nous allons revenir évidemment à des choses très sérieuses, parce que l'info, c'est avec vous, avec Amandine Bégaud, et c'est tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, donc, Éric Zemmour, ça y est, officiellement candidat. La Haute Autorité de Santé qui ouvre, elle, la voie à la vaccination des enfants. Et puis Joséphine Baker fera son entrée au Panthéon, ce sera cet après-midi à 17h30.
Et juste après le journal, on reviendra bien sûr sur cette déclaration de candidature d'Éric Zemmour, les premières réactions, notamment du côté du Rassemblement National. Et puis à 12h50, le panier RTL, et ça se confirme, les prix de l'alimentaire continuent d'augmenter.
Notre météo du jour, c'est avec vous Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et on a une France coupée en deux.
Eh oui, la moitié nord sous les nuages, avec de la pluie sur le nord-est et de la neige des 300 mètres entre les Vosges et le Jura, et du beau temps sur toute la moitié sud. Attention au fort risque d'avalanche sur les Pyrénées. Et je rappelle que le Nord-Pas-de-Calais reste en vigilance orange cru. Les températures, elles remontent tout doucement, mais elles sont encore fraîches, de 2 à 6 degrés entre la région Rhône-Alpes et le Nord-Est, de 6 à 10 ailleurs, jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
RTL Midi.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République.
C'est donc fait. Éric Zemmour, vous venez de l'entendre, officiellement candidat à la présidentielle. Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Déclaration de candidature attendue et faite donc dans un long message vidéo diffusé tout à l'heure à midi. Un mot peut-être d'abord de la forme.
Oui, une candidature ambiance salle de cinéma. Musique façon blockbuster, compte à rebours à l'écran, 5 minutes et voici Éric Zemmour qui apparaît à l'image, l'air grave, seul dans le cabinet d'une bibliothèque, assis, il lit un discours. C'est exactement la même posture que le général de Gaulle lors de son appel du 18 juin. 10 minutes de discours sur la 7e symphonie de Beethoven à plein volume, entrecoupée d'images d'illustrations.
Et alors sur le fond,
10 minutes donc pour chanter la France éternelle, celle qui a inventé le cinéma, la France de Proust, de Gabin et Belmondo, dit-il, avant d'agiter encore la peur et la menace du grand remplacement, dit-il.
Vous avez la sensation de ne plus être chez vous. Vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étranger dans votre propre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur.
Un détour pour justifier sa candidature, sa mue du polémiste au candidat.
Je me disais, à chacun son métier, à chacun son rôle, à chacun son combat. Je suis revenu de cette illusion. Comme vous, je n'ai plus confiance. Comme vous, j'ai décidé de prendre notre destin en main.
Un mot ensuite pour anticiper les critiques et les attaques dont il sera, dit-il, forcément l'objet. Ses équipes avaient annoncé du jamais vu. La promesse est sans doute tenue aujourd'hui.
Merci beaucoup Marie. Marie Mollet du service politique de RTL. Et on vous retrouvera bien sûr tout à l'heure hein, à 12h40.
Et à 12h40, on sera avec Sébastien Chenu du Rassemblement National qui pourra commenter cette déclaration de Éric Zemmour.
Dans l'actualité également, le Covid, et je vous le disais, la Haute Autorité de Santé fait ce matin un premier pas vers la vaccination des enfants. Elle la recommande à Gatlandais pour les 5-11 ans à risque.
Oui, on compte en fait 6 millions d'enfants âgés de 5 à 11 ans, et parmi eux, 360 000 sont considérés comme à risque de forme grave du Covid. Ce sont des enfants atteints de maladies chroniques, comme l'asthme sévère, de maladies cardiaques et hépatiques, ou encore ceux souffrant d'obésité, de diabète ou de trisomie 21. La HAS se dit donc favorable à leur vaccination. Elle la recommande aussi pour les enfants qui vivent dans l'entourage d'adultes à risque non vaccinés ou encore dans l'entourage de personnes immunodéprimées, souffrant par exemple de certains cancers comme la leucémie ou le lymphome, mais aussi les patients sous chimiothérapie et les malades du sida. Pour tous ces enfants malades ou proches de gens à risque, la Haute Autorité de Santé recommande donc la vaccination avec 2 doses des vaccins Pfizer, effectuées à 3 semaines d'intervalle et avec un dosage moins fort que pour les adultes. Il revient désormais au gouvernement de suivre ou non cette recommandation. Pour tous les autres enfants, enfin, la HAS dit attendre encore d'autres données scientifiques pour se prononcer.
Explication signée Agathe Landais pour RTL, et cette annonce intervient alors que l'on s'interroge toujours autour du nouveau variant Omicron. Un premier cas a officiellement été identifié en France, à La Réunion. Il s'agit d'un homme de 53 ans, de retour d'un voyage en Afrique australe. Il a, tout comme son entourage, été placé à l'isolement, mais son état n'inspire pas d'inquiétude. Un variant qui va compliquer l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver qui doivent débuter le 4 février prochain à Pékin. C'est ce qu'indique le ministre chinois des Affaires étrangères. Il se dit toutefois convaincu que la compétition aura bien lieu, sans souci et comme prévu. Fin de citation.
Dans l'actualité également, la stupéfaction après l'agression d'une enseignante en plein cours à Paris.
Ça s'est passé dans le très chic 6e arrondissement, hier au lycée Montaigne. Hortense Crépin, bonjour. Vous êtes sur place pour RTL et vous avez notamment rencontré l'un des élèves qui a assisté à la scène.
Oui, Martin et sa classe de seconde sont en cours de maths hier après-midi quand son camarade de près d'1m90 refuse de faire un exercice demandé par sa professeure.
Il a mis 4 coups de poing d'un coup, puis on est venus les séparer, puis tout le monde a commencé à pleurer. Elle était recouverte de sang, avec du sang sur le sol et tout. Aussi. Moi, ça va, mais je sais que, par exemple, dans ma classe, il y a plein de gens qui sont pas venus parce qu'ils étaient choqués.
Certains filment même la scène. Sur le visage de l'enseignante, une plaie ouverte de 5 cm, des hématomes. Ses camarades décrivent ce garçon de 15 ans, adepte des sports de combat, comme assez turbulent. Et depuis ce matin, tout le monde ne parle que de l'agression devant ce lycée d'ordinaire très calme. Yanis est en terminale.
Ça détériore totalement l'image de ce lycée qu'on a tous, qui est, c'est vrai, un lycée du 6e, à côté du parc du Luxembourg. C'est un lycée de bourgeois avec des gens qui travaillent. Et c'est des gens qui utiliseraient comme première réponse tout sauf la violence.
L'affaire a aussi choqué les parents d'élèves et leur fédération. Véronique Bonneau-Lambert est la présidente de la FCPE de l'établissement.
Mon fils, comme tous les autres enfants, était bouleversé, vraiment, avec des larmes dans les yeux. Nous demandons évidemment que tout soit mis en place pour que soient accompagnés les professeurs, l'encadrement et les enfants.
Les cours des lycéens, finalement suspendus ce matin, doivent reprendre cet après-midi. L'enseignante, elle, est sortie de l'hôpital hier soir. Une cellule d'écoute psychologique est ouverte dans l'établissement.
Hortense Crépin devant le lycée Montaigne à Paris pour RTL. Paris où Joséphine Baker fera tout à l'heure son entrée au Panthéon. Une première, on le rappelle, pour une femme noire. Début de la cérémonie à 17h30. Sophie Orange, comment ça va se passer?
Une cérémonie classique avec une succession de symboles. Le premier, l'un des tubes de Joséphine Baker qui va résonner dans le quartier du Panthéon au moment de l'arrivée du cercueil.
Me revoilà Paris.
Une actrice de la Comédie française racontera les mille vies de la fille d'esclave devenue star des années 30, combattante, résistance, mère de 12 enfants adoptés. Et sur la façade du Panthéon, un spectacle en images pour faire connaître la vie de cette femme libre et engagée. Dans le public, des élèves, collégiens, lycéens dont les établissements portent le nom de Joséphine Baker. Ses enfants aussi seront là, bien sûr, mais ne prendront pas la parole. Seul le président de la République prononcera un discours. À 18h, les gigantesques portes du Panthéon vont s'ouvrir pour accueillir la 6e femme à reposer dans ce temple laïque. La dépouille de Joséphine Baker ne sera pas dans le cercueil. Sa famille a souhaité qu'elle reste dans le cimetière de Monaco. C'est donc un cénotaphe qui prendra place dans le caveau numéro 13, avec à l'intérieur 4 poignées de terre, Saint-Louis, Paris, la Dordogne et Monaco. 4 lieux si chers à sa vie.
Sophie Orange, et vous le disiez à l'instant, cette cérémonie, bien sûr, ses enfants y assisteront ce matin sur RTL. Sa fille Marianne a notamment salué l'amour de Joséphine Baker pour la tolérance et le respect des autres.
Je suis catholique, mon frère Brahim est musulman. J'avais un frère Moïse qui était juif, mon frère Jari est protestant, mon frère Akio est bouddhiste, mon frère Jeannot est shintoïste. Donc il y a beaucoup de religions différentes. Les piliers du panthéon personnel de ma mère, c'était amour, compréhension et tolérance. C'est-à-dire aimer les gens pour ce qu'ils sont, hein. Compréhension, essayer de les comprendre et tolérer s'ils ont des idées totalement contraires aux nôtres.
Marianne Baker, invitée d'Alba Ventura, ce matin sur RTL. Et puis Pascal, vous vous souvenez sans doute de cette polémique autour
bien
du
sûr.
Sapin de Noël de Bordeaux.
L'arbre mort.
Exactement. Et bien cette année, la ville aura bien son arbre de Noël géant même, un sapin en verre et en acier, Philippe de Maria.
Alors l'armature est en métal soutenant des panneaux de verre couleur émeraude, son créateur Arnaud Lapierre.
C'est grand, ça fait 11 mètres de haut, 5 mètres de diamètre pour 4 tonnes. Et ça se démonte, ça a été pensé à la fois pour durer dans le temps, puisque c'est une œuvre constituée de matériaux écologiques, recyclables.
Le sapin trônera à l'emplacement du fameux arbre mort devant la cathédrale Saint-André. Pierre Urmic espère enterrer une polémique qui lui a coûté.
Ça a été dur à vivre, j'ai reçu des menaces de mort très précises, du style « on sait où tu habites », voilà. C'est une affaire qui avait pris une envergure totalement démesurée. C'est une page définitivement tournée.
Il est en tout cas très fier de son nouveau sapin.
Ce sera une œuvre écologiquement responsable, uniquement des artisans locaux qui ont travaillé sur cette œuvre. Donc je trouve que ça combine beaucoup d'éléments auxquels nous sommes ici très attachés, tout en assurant un sapin sur la place Meberlan qui contribuera largement à ce que doit être la féerie de Noël.
Et les Bordelais pourront en juger dès le 11 décembre prochain.
Rendez-vous pris, Philippe de Maria, à Bordeaux pour RTL. Et on en parlera sans doute, Pascal, avec les auditeurs tout à l'heure au 32-10, ce sapin de Noël un peu particulier, donc à Bordeaux.
Effectivement, on interrogera les auditeurs. On va les interroger également sur Éric Zemmour. Mais avant cela, on va revenir sur sa candidature. Et nous serons avec Sébastien Chenu dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. J'ai donc décidé de solliciter vos suffrages pour devenir votre président de la République.
C'est bien sûr l'actualité politique de cette mi-journée, cette déclaration de candidature d'Éric Zemmour, une longue vidéo de 10 minutes dans laquelle le désormais candidat lit son message devant un micro. La mise en scène, allusion au général de Gaulle notamment, se veut soignée. Alors qu'est-ce que ça change? Le polémiste, désormais candidat, peut-il ou non inverser la tendance dans les derniers sondages? C'est le premier débat d'RTL Midi avec nous. Marie Mollet, toujours du service politique d'RTL, et Sébastien Chenu, député RN du Nord, porte-parole du Rassemblement National. Bonjour.
Bonjour,
et merci d'être en direct avec nous sur RTL. Une première réaction d'abord. Vous avez été impressionné?
Non, je n'ai pas été impressionné. Il y a un côté un peu désespérant. Une fois qu'on achève cette vidéo, on se dit, bon, il n'y a plus qu'à aller se mettre la corde au cou, si on comprend bien. Or, moi, si je me suis engagé en politique aux côtés de Marine Le Pen, c'est pas pour renoncer, c'est pour redresser le pays, c'est pour susciter un espoir chez mes compatriotes, pour leur dire qu'il y a beaucoup de choses de possibles encore, que le peuple français, il est formidable. Et c'est pas simplement pour dresser des constats. Or, derrière cette mise en scène un peu, il faut le dire, théâtrale, avec un Éric Zemmour qui regarde pas les Français, qui est caché derrière un énorme micro pour nous faire penser au général de Gaulle. Bon, ben, y a pas beaucoup de projections dans l'avenir. On se dit que c'est pas le candidat qui va nous emmener sur des lendemains qui chantent, quoi.
Est-ce que vous partagez son analyse sur ce qui s'est dit, notamment peut-être que la phrase la plus forte, c'est « vous ne reconnaissez plus la France dans laquelle vous avez grandi ». Je crois que tout à l'heure, on parlait de la thèse du grand remplacement qu'il mettait en place, mais ça, on est sur le fond. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette analyse?
Mais ça fait 30 ans que le Rassemblement National, Marine Le Pen dans l'ensemble de ses discours, pouvait reprendre celui de Fréjus où les militants du Rassemblement National et avant eux du Front National disent qu'effectivement la France change, la France se modifie, la France s'affaisse. Donc si vous voulez, ce constat aujourd'hui d'ailleurs, il suffit d'écouter aussi les Républicains, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent sur ce constat. Et on n'a pas attendu Éric Zemmour qui lui à une époque votait Mitterrand en 81, en 88, quand nous on a mené des combats, même encore ces dernières années, contre ceux qui abîment la France. On ne l'a pas entendu. Aujourd'hui, c'est salutaire de l'entendre dire que notre pays effectivement s'abîme et notre pays change. Mais une fois qu'on a dépassé les constats, il va bien falloir un moment qu'on travaille, qu'on se remonte les manches pour le redresser. Donc le champion des constats n'est pas le champion des solutions.
Et Sébastien Chenu, ici même sur RTL, Marine Le Pen dimanche invitait Éric Zemmour à renoncer. Elle lui disait, il y a plein de façons d'aider, de servir son pays. Sincèrement, vous pensiez qu'il n'irait pas?
Oh ben non, nous on a toujours considéré qu'à partir du moment où il avait commencé à avancer, il se mettait dans une mécanique qui l'obligeait, alors même qu'il n'arrivait pas à entrer dans le costume, à aller jusqu'au bout, presque à son corps défendant. Mais c'est vrai que ce que dit Marine Le Pen est juste. Cette candidature, si aujourd'hui elle nous démontre, enfin Éric Zemmour nous démontre qu'il ne peut pas battre Emmanuel Macron, qu'il ne peut pas rentrer dans la vie présidentielle, et qu'il a du mal même à se maîtriser lui-même, eh bien au lieu d'être candidat, si son adversaire vraiment c'est Emmanuel Macron. Nous, notre adversaire, c'est Emmanuel Macron. Eh bien, s'il partage cet objectif et les mêmes constats que nous, alors autant nous donner un coup de main, autant y aller ensemble. Il avait construit son discours sur Marine Le Pen ne peut pas y arriver. Et puis en fait, on s'aperçoit que c'est Éric Zemmour qui ne peut pas y arriver. C'est Éric Zemmour qui a du mal. C'est Éric Zemmour qui a du mal avec les Français. Donc, au lieu de s'entêter et de ne pas avoir de valeur ajoutée, qu'il nous donne un coup de main. Qu'il nous donne un coup de main pour battre Emmanuel Macron. On n'a jamais été aussi proche, en réalité, de pouvoir battre Emmanuel Macron pour faire une autre politique dans le pays. Elle est là, la grandeur de quelqu'un et qui s'intéresse au sort de la nation.
Merci beaucoup, Sébastien Chenu, d'avoir été en direct avec nous, député RN du Nord, je le rappelle, et porte-parole du Rassemblement National. Marie Mollet, je me tourne vers vous. Cette candidature, finalement, c'est d'abord un moyen de se relancer pour Éric Zemmour.
Oui, exactement, parce qu'en fait, on a vu la percée d'Éric Zemmour, qui a pris tout le monde de court. Éric Zemmour, lui-même, qui espérait au mieux faire 10% dans les sondages en janvier. Il a fait 10% dans les sondages de mémoire fin septembre. Et puis est arrivé novembre, qui est le mois des bévues, des premières anicroches dans sa campagne. Le point de bascule, c'est sûrement, sans doute, le 13 novembre, sa conférence de presse devant le Bataclan, à grand renfort de caméra, qui a choqué jusque dans son camp. C'est indécent, ce sont des mots que j'ai pu entendre dans la bouche d'un de ses soutiens. Et puis ensuite est venu les accueils hostiles à l'étranger, à Londres, à Genève, Philippe de Villiers, son ami, qui prend ses distances, et puis le doigt d'honneur qui vient parachever ce mois très compliqué. Et donc l'objectif de cette déclaration de candidature, c'est aussi de renouer avec l'état de grâce des mois de septembre et d'octobre.
Et de faire donc remonter ces sondages.
Et de faire remonter les sondages, effectivement. C'est très important parce qu'Éric Zemmour, il est rivé aux sondages. Hein. Il en parle, il est décortique sur les plateaux de télé, il regarde les courbes point par point. Il était à 19% dans certains sondages fin octobre, donné au second tour dans plusieurs sondages. Il est retombé autour de 14% aujourd'hui, ça reste des niveaux très élevés. Mais il y a une baisse, et quand ça tend, quand les courbes baissent, eh bien ça délie les langues aussi en interne. On entend depuis plusieurs semaines des critiques, notamment sur le manque d'organigramme clair, sur la répétition du thème de l'immigration au détriment de l'économie, et aussi l'omniprésence de sa conseillère, Sarah Knafo, qui crispe, en tout cas on entend un certain nombre de critiques sur ce sujet.
Mais c'est vrai que 14 ou 15 points, c'est au-dessus de Yannick Jadot, c'est au-dessus de Hidalgo, c'est au-dessus de Xavier Bertrand. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de décrypter le message du clip qu'on a vu tout à l'heure. Comment se positionne-t-il ? J'ai vu du Trump un peu plus peut-être que le discours ou le public auquel il s'adressait d'habitude, qui était un peu plus haut de gamme entre guillemets. Là, j'ai vu quelque chose de plus populaire, de plus violent aussi. Est-ce que vous partagez cette analyse ?
Alors, à quoi ? De quel mot vous trouvez plus violent ?
De s'adresser lorsque on dit la France telle que vous l'avez connue, elle n'existe plus. Je trouve que c'est caricatural. Peut-être certains quartiers ont changé, mais toute la France n'a pas changé. Il suffit de sortir. Et là, j'y ai vu une forme de trumpisme ou de volonté de généraliser qui n'existait pas forcément dans d'autres discours.
Je ne sais pas s'il y a un niveau de radicalité plus fort encore que ce qu'on a pu entendre. Ce que vous dites là me fait penser à la convention de la droite, qu'il avait dit à la convention de la droite avec Marion Maréchal en 2019. Un discours, d'ailleurs, il a été poursuivi. Et donc, il y avait déjà cette radicalité-là. Donc, je ne sais pas si on est dans un crescendo dans la radicalité. En revanche, c'est vrai qu'il y a une adresse aux Français.
Il y a des classes peut-être plus populaires dans ce clip.
Peut-être.
C'est ça qui m'a
frappé. Peut-être qu'il y a une adresse aux Français. Il parle du quotidien. Alors peut-être que là, effectivement, il y a une nuance qui vient s'ajouter et à laquelle il ne nous avait pas forcément habitués jusqu'ici.
Bon, en tout cas, on va pouvoir en parler avec les auditeurs parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est d'être le plus factuel possible, j'allais dire le plus neutre possible, pour essayer de savoir ce qu'il y avait dans ce clip et d'essayer de l'interpréter. C'est ça qui est intéressant, et donc de comprendre ce que sera sa stratégie. Et le micro de Gaulle, la bibliothèque de François Mitterrand, les signes qui ont été donnés dans ce clip visuellement, les personnages qu'on montre, De Gaulle, Clémenceau, Bardot, Belmondo, etc. Ça, je trouve que c'était intéressant à voir tous ces messages-là et donc de les analyser. Il est 12h51, une pause, à tout de suite.
RTL Midi.
RTL Midi.
Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je regarde plus les prix maintenant. Avant, j'avais moins tendance. Je prenais toujours les mêmes produits, toujours à peu près la même chose. Maintenant, oui, on regarde. Puis des fois, on se dit, ben non, on ne va pas prendre ça quand même, c'est exagéré. Mais là, ça fait 2 mois que ça augmente vraiment beaucoup et très rapidement.
Plus 2,8% au mois de novembre, plus 2,6% en octobre. L'INSEE le confirme aujourd'hui. L'inflation s'accélère en France. Alors depuis un mois, RTL a mis en place son propre indicateur, le panier RTL. Tous les mois, on fait les courses et on compare. L'idée, bien sûr, c'est pas de faire quelque chose de scientifique, mais d'abord des éléments du quotidien. Bonjour Étienne Baudu.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes l'un de ceux qui fêtent ce panier RTL. Petit rappel d'abord, qu'est-ce qu'il y a dans ce panier?
Alors dans ce panier RTL, nous avons 13 produits. On y trouve des œufs, du café, du sucre, de l'huile, une brique de lait, des spaghettis, une conserve de haricots, 4 steaks hachés, des céréales, un soda, un dentifrice, mais aussi 1 kg de carottes en vrac et 1 kg de pommes, des Royal Gala pour être très précis.
Bon, et donc bilan pour ce mois-ci?
Eh bien, ce qu'on pouvait craindre arrive, ça augmente. Sur les 4 hypermarchés choisis, la moyenne de l'augmentation du prix du panier RTL est de 30 centimes. 30 centimes sur un panier qui atteignait presque 24 euros le mois dernier, soit une augmentation de 1,3%. Alors avec des disparités, d'abord, il faut la noter, c'est une baisse pour les chanceux tourangeaux, moins 4,5% à Tours. Mais ailleurs, c'est à la hausse, 1,5% d'augmentation en région parisienne, plus 3% à Lille et à Marseille, à jamais les premiers, avec une hausse de 5,5%.
Qu'est-ce qui... C'est terrible parce que...
Mais oui, mais bon.
Bon. Alléluia. Qu'est-ce qui augmente le plus dans le panier RTL?
Alors pour prendre l'exemple marseillais, c'est le kilo de pommes Royal Gala qui augmente le plus, celle de notre panier. Elles sont ce mois-ci à 2,99€ le kilo, 50 centimes de plus que le mois dernier, soit tout de même une augmentation et une hausse de 20%. Alors qu'on est en... si vous voulez bien, on va d'abord attendre Gabi qui va vous expliquer d'ailleurs que ce changement et cette augmentation, ça lui... Mais il ne se fait plus plaisir quand il va dans le rayon des fruits et légumes. Écoutez-le.
On fait le choix, quoi. On ne prend pas la pomme, n'importe quelle pomme, quoi. On est obligé de regarder les prix avant de regarder la variété. De temps en temps, je me fais plaisir, mais en général, je regarde les prix, oui, c'est vrai. C'est trop cher.
Voilà. Alors, on va expliquer un petit peu cette augmentation. Alors, Arnaud Touche, du service économique de RTL, s'en est chargé. Il s'est renseigné. Les producteurs expliquent que les distributeurs ont forcément dû augmenter leur marge sur ces produits, car le cours des pommes, par exemple, sur les marchés de gros, est stable et que les stocks sont pleins. D'autres acteurs du secteur avancent une autre raison. C'est la hausse du coût de la logistique, notamment les transports des fruits et légumes. Mais à noter quand même que, pour être complet, que le prix du kilo de nos pommes Royal Gala est aussi élevé à Tours qu'à Marseille. Il coûte même 1 euro de moins en région parisienne et à Lille.
Bon, Étienne, ça c'est pour l'alimentaire. Notre panier, il faut le rappeler, ne tient pas compte de l'essence.
Non, et pourtant, nombre de clients que j'ai croisés sur ce supermarché ont mis aussi en avant la flambée du prix des carburants. Au grand désespoir de Guy, par exemple, il est retraité.
Tout ce qui est carburant, tout ça, je veux dire, c'est parti en flèche, je veux dire. C'est, vraiment, pour des retraités, c'est dur. C'est dur. Il faut dire ce qui est, par rapport à avant, c'est très dur.
Voilà, et on se donne donc, écoutez, rendez-vous dans un mois pour faire de nouvelles comparaisons.
Et oui, c'est instructif. Ce qu'on disait, Étienne, c'est pas forcément scientifique, mais ça traduit ce sentiment qu'on a tous en faisant les courses. Et ça permet d'avoir quelques repères. Merci beaucoup à vous. Et bonjour aux Marseillais, donc.
À jamais les premiers, on est d'accord.
Ça ne nous a pas échappé. Merci, Étienne Baudu. On va parler évidemment d'Éric Zemmour. Il y a une phrase qui sera fortement commentée. Forcément, vous n'avez pas quitté votre pays, mais c'est comme si votre pays vous avait quitté. Vous vous sentez étranger dans votre pays. Vous êtes des exilés de l'intérieur. Je ne suis pas certain que ce vous auquel s'adresse Éric Zemmour, je ne suis pas certain que tout le monde pense comme cela en France, où tout le monde ait même ce sentiment. Mais on va pouvoir en parler ensemble. Il est 12h57, le rappel des titres dans une seconde. Et les auditeurs après.
RTL Midi.